Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue dans les hors-séries de Slice. Comme vous le savez, je reçois normalement sur le podcast des hommes et des femmes qui ont décidé de reprendre ou de créer une entreprise. On parle donc ici traditionnellement d'entrepreneuriat, de parcours de vie, de challenge, de succès et d'échecs, mais pas que. Avec Slice, on part également à la rencontre de ceux qui aident les entreprises à prospérer. À tous mes invités, je pose cette même question. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit? Alors avec des dizaines d'épisodes et autant de réponses, il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie de m'intéresser à ces métiers de rêve. Bienvenue donc dans les portraits de Slice pour découvrir de nouvelles histoires de vie. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans les portraits de Slice en compagnie de deux commissaires de police. Le commissaire Clélia Grémaud, chef de la division de lutte contre la criminalité financière au sein de la police judiciaire du Nord à Lille, et le commissaire Camille Chaise, qui est quant à elle porte-parole du ministère de l'Intérieur et est donc la voix de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile. Avec Clélia et Camille, nous évoquerons leur parcours scolaire et académique, la préparation du concours de commissaire de police et leurs 2 ans de formation passés à l'ENSP, l'École nationale supérieure de la police. Clélia nous parlera de son travail au sein de l'état-major de la police judiciaire pour le Nord et Camille reviendra pour nous sur ses différentes affectations du commissariat de Vanves-Malakoff au porte-parole du ministère de l'Intérieur. Être policier, c'est souvent un rêve de carrière pour les enfants quand ils sont petits, et à l'écoute des témoignages de Camille et de Clélia, on réalisera aussi que c'est un métier passion extrêmement prenant qui ouvre des dizaines de possibilités de carrière différentes avec leurs avantages et leurs inconvénients. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clélia, bonjour Camille, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui au micro de Slice pour parler de votre vie, de votre métier de commissaire de police et pour toi Camille de porte-parole du ministère de l'Intérieur. Mais avant toute chose, tradition oblige sur Slice, je vais vous poser la première question qui débute tous les épisodes du podcast. Quel est le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant?
Bon, je vais me permettre de répondre en premier. Ouais. Moi, j'avais des envies un petit peu folles quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je voulais être aventurière. Je pense que je passais beaucoup trop de temps devant une émission qui s'appelait Sydney Fox, l'aventurière. Oui, je le dis, je l'assume.
Et archéologue,
sans difficulté, qui était plutôt effectivement archéologue ethnologue, etc., et qui vivait tout un tas d'aventures formidables un petit peu partout dans le monde. Ouais. Et je pense que j'étais complètement fascinée par ce personnage et puis simplement par cette vie d'aventure, voilà, où la routine n'existait pas, un peu femme forte, femme guerrière. Et bon, assez rapidement, j'ai compris que le métier d'aventurier n'existait pas. Donc, je me suis tournée vers d'autres voies. Et puis, finalement, les métiers de la sécurité et celui de commissaire de police en particulier ont plutôt répondu à ces attentes enfantines.
Et toi, Camille?
Alors, moi, je réfléchis, en fait. Je crois que quand j'étais tout enfant, je voulais être maîtresse.
Ah oui?
Je ne sais pas trop pourquoi. Et assez vite, j'ai voulu faire de l'humanitaire. Moi, j'aimais vraiment déjà les relations internationales et puis voilà, la santé, le secours. Okay. Et globalement, l'humanitaire en général. Et puis, je me suis assez vite cassé les dents. Je me souviens, quand je cherchais des premiers stages, on demandait beaucoup d'expérience, beaucoup de formation et j'étais très jeune. Et voilà, j'ai fait d'autres choses dans ce domaine du secours et de la santé qui, ouais, m'ont menée de fil en aiguille jusqu'à ce beau métier de commissaire de police.
Et du coup, donc l'aventurière et l'humanitaire en vous, quand vous faites votre parcours scolaire collège-lycée, vous choisissez quelle filière? Est-ce que vous avez toujours cette idée ou déjà ça a commencé à changer? Ou vous avez un parcours scolaire collège-lycée où vous essayez d'aller sur cette voie de l'archéologie peut-être? Et toi Camille, une action dans le social, dans la santé?
Alors,
quelque
moi,
chose.
Pas du tout. J'ai suivi les pas de ma grande sœur qui était brillante à l'école. Moi, j'étais moins brillante, mais j'ai fait comme elle. Je suis partie à Sciences Po parce qu'elle a fait Sciences Po. Et donc, elle m'avait dit, tu verras, tu peux
c'est
tout
génial,
faire quand tu fais ça.
Ouvre toutes
donc
les portes.
Voilà, je l'ai suivi assez basiquement. Et c'est une fois à Sciences Po que j'ai commencé à me spécialiser,
d'accord,
à choisir des matières liées avec les passions qui étaient les miennes, la santé publique, le secours.
Et avant, tu as fait une prépa.
Oui, une prépa HEC, en l'occurrence, à Lyon, ouais. Oui. Parce que voilà, j'étais pas trop mauvaise en maths, mais j'ai vite atteint mes limites en mathématiques et en statistiques. Une petite réorientation était tout à fait nécessaire.
Et toi, Clé aussi, prépa, non ?
Ouais, avec un parcours un peu atypique, effectivement, parce que moi, j'ai commencé avec une prépa littéraire, Canipocagne, oui. À Besançon, pendant 2 ans. J'étais...
Ah, t'as fait les 2 ans ?
J'ai fait les 2 ans, bien sûr. On m'a proposé de faire la 3e année, mais quand même, parce qu'il est possible de cuber une année de prépa littéraire. Mais j'avais déjà vécu 2 années difficiles en termes d'investissement et de travail, donc je me suis dirigée vers les bancs de la fac. Après, c'était beaucoup plus raisonnable. J'étais passionnée de littérature et de philosophie, j'ai vraiment, je me suis beaucoup concentrée là-dessus pendant ces 2 années de prépa littéraire. Après, j'ai eu besoin de quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus pragmatique aussi peut-être, et donc je me suis dirigée vers une licence de sciences politiques à la fac à Lyon 2. Et ensuite, ça s'est confirmé mon souhait d'intégrer les métiers de la sécurité et celui de commissaire. Donc j'ai fait le master sécurité intérieure qui est proposé par Lyon 3 en collaboration avec l'ENSP.
Et où tu as rencontré moi.
Absolument. J'ai rencontré une amie surtout.
Voilà, c'est ça. Et toi Camille, donc Sciences Po Paris,
oui.
Du coup, où tu fais donc un master en affaires publiques.
C'est ça.
Est-ce que déjà dans ton idée, commissaire de police, c'est pour vous deux, hein, est-ce que à ce moment-là, donc toi, bon, Lyon 3, commissaire de police, c'est sûr, mais est-ce que les années de licence, il y a déjà commissaire de police en tête ?
Moi, pas du tout. Mais alors, vraiment pas. J'y avais jamais pensé. Bon, j'avais jamais eu de problème en matière de sécurité, donc je n'avais jamais rencontré
de policiers
ni de gendarmes, et je n'y avais pas pensé du tout. Et en fait, je suis devenue pompier par cet amour finalement de la santé et du secours. Et donc, j'ai été réserviste à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant 5 ans. Et là, j'ai commencé à rencontrer sur des interventions des policiers. Et je me suis dit, waouh, ce métier est intéressant. Et je me suis dit, ouais, je pense que j'arriverai à supporter la violence, la douleur, la délinquance. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de travailler pour le service public dans le domaine de la sécurité. Moi, c'est comme ça que m'est apparue cette idée, cette envie de faire ce métier. C'est une fois sur le terrain, au contact des policiers, en fait.
D'accord. Et alors, pour les auditeurs qui se demanderaient, réserviste, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est quand même l'une des brigades de pompiers qui est la plus difficile en termes professionnels à intégrer. En tant que réserviste, c'est plus facile ou c'est aussi difficile ?
Alors, c'est une unité militaire d'élite, effectivement, de l'armée de terre. Ça existe encore aujourd'hui, ce format de réserve. Ça permet à des citoyens, après une bonne préparation militaire, assez poussé, hein. Moi c'était pendant 3 semaines, on apprend à marcher au pas, on apprend tous les gestes techniques, j'ai appris énormément sur la manière de se comporter en intervention. On peut intégrer effectivement la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et moi je travaillais déjà à côté, hein. J'avais un job à temps plein, et je passais à environ 1 à 2 week-ends entiers à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc j'attaquais le samedi à 7h, je finissais le lundi à 7h, je passais chez moi vite fait prendre une douche et je repartais au travail dans la foulée à 9h. Mais quand on est jeune, déjà on encaisse, et puis moi c'était ma grande passion. Et donc j'ai beaucoup appris auprès d'eux pendant 5 ans, et en plus ils m'ont formée sur le terrain. Et quand j'ai passé le concours de commissaire de police, ils m'avaient réinstallé au cœur de la caserne de sapeurs-pompiers où je travaillais tout le parcours sportif pour m'entraîner, parce qu'il y a des techniques peu qui m'ont apprises, en fait. Donc je leur dois vraiment beaucoup, et dans ma construction professionnelle j'ai beaucoup appris d'eux.
Et pas officier pompier alors, du coup, les pompiers?
Non, ça aurait pu, j'y avais pensé, mais le goût du droit aussi. J'en avais jamais fait à l'école, mais pourtant la loi, le droit, c'est des choses qui pour moi sont des valeurs importantes, et j'avais envie d'œuvrer dans ce domaine et dans ce métier là
et toi Clé, donc en licence Sciences Po Lyon 2, commissaire de police, tu l'as déjà en tête?
Non, pas vraiment. Moi, il faut savoir, effectivement, je connaissais personne dans la police, que ce soit dans mon entourage personnel, amical ou familial. C'est quelque chose que j'avais eu en tête, effectivement, étant plus jeune, que j'avais un petit peu oublié avec le temps et avec les études et le choix que j'avais fait des études plus littéraires. Mais vraiment, en intégrant la licence de sciences politiques, j'avais besoin de me rapprocher de quelque chose d'un métier plus concret, plus pragmatique, et surtout de me sentir utile. Et c'est vraiment en intégrant le master sécurité intérieure, en étant au contact quasiment quotidien avec les élèves commissaires de police de la promotion qui était à l'école à ce moment-là, que ça a vraiment confirmé ce goût, ce choix-là, avec les échanges qu'on avait. Puis du coup, ça a permis beaucoup de rencontres, hein, et d'élargir un petit peu mon cercle de connaissances. Et ça a vraiment confirmé cette envie de me sentir utile, d'être au service de l'autre, d'avoir aussi des relations humaines fortes, parce que la police, c'est beaucoup de relations humaines fortes, finalement. Aussi le goût du droit qui est venu un petit peu sur le tard pour moi, parce que j'avais pas forcément fait d'études en rapport, mais bon, j'ai rattrapé mon retard sur la fin. Et cette rigueur aussi de la pensée qui finalement se rapproche un petit peu de la rigueur philosophique que j'avais pu connaître dans mes études passées. Voilà, où il y a une vraie rigueur de la pensée, une vraie structure de la pensée. Le rôle de commissaire de police, ça demande effectivement d'être décisionnaire, mais d'être décisionnaire en ayant toutes les cartes en main, une vision, vraiment globale des choses, et d'avoir une pensée simple et claire. Voilà. Et je pense qu'en ça, ça se rapprochait effectivement de mon appétence pour la philosophie.
Alors avant de passer, de parler du fameux concours pour rentrer à l'ENSP, toi Camille, tu avais commencé ta vie active, comme tu disais, avant de passer le concours, tu avais commencé à travailler.
Après Sciences Po, j'avais fait un stage long à la Croix-Rouge française, toujours cet amour voilà, de l'humanitaire, de la santé,
du secours. Tu retrouvais tes premiers amours.
J'étais attachée de presse.
C'est ça. En plus, pendant une période pas très simple.
Oui, bah, y a toujours des crises, en fait. Ouais. Mais c'était la période notamment du tsunami.
Ouais.
Voilà, où il y avait eu plusieurs centaines de milliers de morts en Asie du Sud-Est. Oui. Donc oui, j'avais beaucoup travaillé comme attachée de presse à ce moment-là. Et donc, mon premier job, on m'a proposé de continuer mon stage sur un premier job d'attachée de presse. Que j'ai adoré, effectivement, et j'apprécie beaucoup cette association, cette grande association. Et après, on m'a proposé un poste au ministère de la Santé, sur la gestion de crise aussi. Donc, ce qu'on appelle la planification, donc préparer des plans de gestion de crise dans le domaine sanitaire, donc beaucoup d'envois de professionnels de santé en Outre-mer ou à l'étranger lors des crises. Donc, j'étais toujours dans ce domaine qui m'a attiré autant, et beaucoup aussi sur le NRBC, donc le risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique, où j'ai encore rencontré...
explosif aussi,
on dit maintenant, effectivement.
Le petit E, là.
à l'époque, on n'en parlait pas encore du risque explosif, mais c'est vrai que c'est la terminologie maintenant, où j'ai aussi rencontré des policiers, des gendarmes sur le terrain.
Forcément,
voilà, et c'était passionnant. Et
j'ai travaillé...
Alors, j'aurais pu rester. C'était une période où le ministère de la Santé était en profonde restructuration. D'accord. C'était au moment de la création des agences régionales de santé.
D'accord.
Et c'est vrai que c'était un petit peu le bazar, comme c'est parfois le bazar dans le service public, dans les ministères. Et donc, j'avais un petit peu de temps, ou alors j'étais hyper efficace, c'est peut-être ça.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Donc, le matin, je travaillais. L'après-midi, j'avais un peu de temps pour réviser. Ouais. Et donc, voilà, je me suis mis en tête de passer ce concours. Moi, ce qui me plaisait surtout dans le métier de commissaire, c'était de me dire, comme j'avais échangé avec des commissaires, que c'était à la fois un métier de terrain, un métier de bureau, de management. Et voilà, je me disais que ça alliait ces deux. Et moi, j'avais besoin de me sentir déjà utile aux autres. Je pense que c'est ton expression et je la fais totalement mienne aussi. Et au cœur de la société même. J'avais envie d'être comme ça, vraiment de travailler dans la société en lien avec tous les partenaires locaux. C'est vraiment ce qui m'animait à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai pris un peu de temps aussi pour réviser, préparer ce concours qui demeure difficile.
Et justement, ce concours, comment on le prépare ? Clélia, donc toi, tu finis Lyon 3, donc le M1 et le M2 Sécurité Intérieure. Il y a des prépas qui sont disponibles, non, pour préparer ce concours. Comment vous vous êtes préparées toutes les deux pour... parce qu'il y a beaucoup de droits.
Il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement ce qu'on appelle les IE... Non, les IE... pas les IEP, du coup.
IEP, c'est Sciences Po.
Oui, c'est des...
Les prépa IEP, il doit y avoir.
Institut d'études judiciaires, les IEJ.
Ah, IEJ.
Voilà, c'était le terme que je cherchais.
Non, mais c'est bien.
Les instituts d'études judiciaires au sein des facultés, donc il y en a un petit peu partout, qui permettent de préparer les concours de manière large des métiers de la sécurité, donc que ça soit officier de gendarmerie, officier, commissaire de police, inspecteur des douanes aussi. Il y a également les prépas privés qui sont possibles, et puis après il y a les formations, et je pense que c'est ce que tu as fait, Camille, à Sciences Po Paris, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas ce que tu as fait.
Non, moi j'ai pas fait de prépa particulière.
D'accord, ok.
Bon, tu as révisé toute seule de ton côté.
Mais oui, mais à l'époque ça se faisait moins. Je pense que je suis un petit peu plus vieille que toi.
Non,
il faut le dire.
Bon, donc tu as préparé toute seule.
C'est ambitieux, effectivement.
Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de prépa.
Ouais.
Et puis comme je travaillais déjà, c'était un petit peu
compliqué de repartir. Oui.
C'est vrai que c'est un concours qui est difficile, qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation, d'où l'intérêt de ces prépas et de se consacrer en fait quelques mois pleinement à la préparation de ce concours et donc aux différentes matières, notamment aux écrits dans un premier temps, donc que ce soit le droit pénal, la procédure pénale, droit administratif, droit des libertés publiques,
ah oui, quand même.
De la culture générale aussi, qui est une épreuve à coefficient important dans le cadre des différents concours. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, donc, moi j'avais fait un IEJ à la faculté de Lyon 3, donc pendant 6 mois, et ça m'a beaucoup aidée à préparer à la fois les écrits et puis pour la suite du concours aussi les oraux, grâce aux professeurs que j'avais à cette époque, de préparer les oraux blancs et de vraiment voilà, vous immerger dans cet univers et dans la préparation de ce concours.
Et t'as passé, toutes les deux, hein, ça vaut pour toutes les deux, vous avez passé un seul concours commissaire de police ou vous avez tenté officier et officier de gendarmerie? Parce qu'il y a ça aussi, ça prépare à tout, et à la gendarmerie et à la police, il y a différents. Donc toi, le clé, je sais que tu as passé trois, Cléa, je sais que tu as passé les trois concours.
Oui,
et toi,
tout à
Camille,
fait.
Ouais.
Alors moi, j'ai passé commissaire et l'ENA avant, que je n'ai pas eu. Et donc, en fait, je ne me suis pas complètement préparée toute seule parce que j'avais fait une préparation. Je crois que j'avais eu 4 ou 6 cours du soir.
D'accord.
Grâce à une prépa interne sur l'ENA. Et en fait, il y a un certain nombre de matières qui étaient à peu près similaires. Donc, je ne me suis pas complètement préparée toute seule. Et moi, ma méthode, c'était les fiches. Bon, après, chacun sa méthode. Mais
ah ouais,
moi, j'étais une psychopathe de la fiche. Donc, voilà, je mettais chiffres clés, mots clés, etc. sur toutes les thématiques, notamment en droit, parce que j'avais fait que du droit constitutionnel à Sciences Po, donc c'était, ou des libertés publiques, ce qui est un peu limité. Et donc, voilà, j'ai commencé à lire le livre rouge avec voilà, beaucoup de candeur et voilà, j'ai fait des fiches, ça vaut ce que ça vaut, mais après chacun sa méthode.
Et l'ENA, c'est part, toujours un projet ou
Non, ça m'a complètement passé. Surtout que quand on est commissaire de police, on peut accéder à plein de postes tenus par des énarques ou des administrateurs civils. Il y a plein de passerelles internes, notamment vers la préfectorale si on le souhaite. Mais tout ça pour dire que moi, en fait, quand vous travaillez, moi je m'étais toujours dit, en fait, j'apprends mieux tout en travaillant. Le fait de sortir des fois du milieu scolaire, ça permet d'ouvrir ou de concrétiser un certain nombre de choses qu'on apprend scolairement. Et donc, je me suis toujours dit, en fait, le fait de travailler, bah, c'est sûr, ça prend du temps, donc moins de temps de révision. Mais ça rend concret ou ça donne corps, finalement, à des choses qu'on apprend à la fac. Mmh. Et donc, bah, des fois, c'est pas du temps perdu. Notamment, je pense, un petit conseil là, à ceux qui voudraient être policiers, quel que soit le grade d'ailleurs, ne pas hésiter à, voilà, à pousser les portes d'un commissariat pour un stage, pour une période de réserve, pour un apprentissage. Il y a plein de possibilités maintenant qui n'existaient peut-être pas à notre époque, et ça permet aussi de, voilà, de voir un peu concrètement ce qu'on apprend, comment ça se décline, et ça, c'est pas rien. Et finalement, les matières du concours, c'est un peu, enfin, faut arriver à faire passer sa passion, ses valeurs et sa connaissance du métier. C'est pas que de la connaissance brute.
Je te rejoins totalement dans le fait qu'une expérience effectivement en milieu professionnel, au-delà effectivement du parcours scolaire plus classique, ça permet certainement de forger aussi le discernement, le bon sens, en tout cas aussi un sens critique qui est attendu également, je pense, dans le cadre du concours. Toute proportion gardée, bien sûr, mais je pense que c'est important pour un candidat à ce type de concours, voilà, d'avoir aussi une opinion, de savoir se positionner et de n'être pas uniquement dans un apprentissage scolaire théorique. Et en cela, je pense qu'effectivement, une expérience professionnelle est certainement valorisable dans ce cadre-là.
Et voir aussi si ce métier est fait pour soi,
oui,
tout simplement, parce qu'entre l'imaginaire collectif, ce qu'on voit dans la fiction, ce qu'on s'imagine de tout cela, moi je me suis toujours dit, en fait, pour préparer un oral, la meilleure méthode, c'est de sentir au fond de ses tripes qu'on est fait pour le job, en fait.
Ouais.
Et si nous, on est persuadés qu'on est fait pour le job, assez naturellement, on va transmettre notre passion, nos valeurs, notre intérêt
voilà,
à notre auditoire. Et en tout cas, pour l'oral, alors ça s'applique peut-être un peu à l'écrit aussi, mais voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faut sentir au fond de soi.
Donc vous avez parlé des écrits, donc avec toutes ces matières en droit, différentes matières en droit et en culture générale, et les oraux. Donc on passe d'abord les écrits, ensuite on est reçu pour les oraux, et les oraux, ça porte
sur
quoi ?
Il y a le sport aussi.
Ah oui, le sport.
Ça, c'est pas rien.
Je me souviens, tu t'entraînais, Clélia.
Je pense que ça n'existe plus, mais à l'époque, on avait également une épreuve de gestion du stress.
Voilà, moi, je suis trop vieille, je n'avais pas ça.
Ah ouais, qu'est-ce que
qui a été supprimé depuis, je crois. Alors c'était une épreuve assez particulière, sans trahir de secret, mais effectivement c'était pour vous tester dans votre gestion du stress, la gestion du sang-froid, les réactions parfois presque épidermiques que vous pouviez avoir en simulant une espèce d'opération, de perquisition.
Parce qu'on est un leader positif,
exactement, la communication en situation de crise, parce qu'on avait effectivement une radio, ce qu'on appelle les radios Acropole, pour communiquer avec les autres interlocuteurs.
Ah, voir si tu le fais bien, si t'es précise et si tu te laisses pas
submergé
par l'émotion.
Voilà, sachant qu'on vous met en condition forcément, en difficulté, avec un peu de lumière, ce genre de choses. Donc c'était une épreuve
L'atmosphère un peu anxiogène.
une atmosphère
un
petit peu anxiogène.
Ah oui, c'est comme les forces spéciales qu'on peut voir dans
les reportages. Je pense que c'était pas de ce niveau-là tout de même.
Oui, c'est moins pire, mais ça donne un peu une idée sur tout le stress qui peut...
Avec l'accompagnement, bien sûr, d'une psychologue qui débriefe avec vous à l'issue. Donc, c'était une épreuve relativement intéressante, mais je crois qu'elle n'existe plus. Et effectivement, l'épreuve de sport qu'il faut pouvoir passer... qui peut être éliminatoire, effectivement.
Et c'est quoi ? C'est de la course, des...
Alors, il y a une épreuve Luc Léger.
Oui. Voilà. Alors, c'est des bips. Voilà, faut courir de plus en plus vite.
C'est ça. Et il y a également une épreuve de parcours avec différents ateliers pour laquelle, effectivement, il est bien de s'entraîner au préalable.
et les oraux, alors, ça porte sur quoi ? Des langues étrangères
Oui, des langues étrangères, une option au choix et puis un grand oral. On a un sujet... tiré au sort qu'il faut présenter, argumenter, en tout cas moi c'est ce type de grand oral que j'ai eu, et puis après une salve de questions-réponses qui dure environ une demi-heure, on vous interroge sur tout et n'importe quoi, et donc charge à vous de réorienter, de traiter, de ne pas traiter la question,
d'accord,
et faut faire passer aussi son goût pour le métier dans toutes ces questions qui vous sont posées.
Vous vous souvenez de vos sujets?
Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Il y a 4 épreuves d'oral en tout. Effectivement, il y a une épreuve de langue étrangère qui est l'anglais. Il y a une épreuve de mise en situation individuelle avec un cas pratique très concret et donc vous exposez vos solutions. Il y a une épreuve.
Genre il y a un attentat. Qu'est-ce que tu fais? Non, un truc comme ça.
Quelque chose de plus courant dans la vie quotidienne d'un commissariat, de management.
Ah d'accord, ok. De la vie d'une entreprise. D'une entreprise.
C'est ça, d'un service.
D'un service, voilà.
Il y a une épreuve de mise en situation collective qui est là plus pour analyser finalement. Vos interactions avec les autres. Et effectivement, l'épreuve qui a le plus gros coefficient pour ce qui est des épreuves orales, c'est le grand oral avec un jury de 9 personnes pour laquelle vous tirez un sujet de culture générale qui peut vraiment couvrir un champ très très large, et à l'issue des questions-réponses pendant 30 minutes. Moi, j'ai plus l'intitulé exact de mon sujet, mais je sais que ça concernait le divertissement, les nouvelles formes de divertissement et d'humour. Ce qui m'a permis d'évoquer, ce qui est quand même expérience très particulière dans un grand oral de commissaire de police, d'évoquer la télé-réalité, touche pas à mon poste, enfin voilà toutes ces nouvelles formes de divertissement qui interrogent aussi sur notre rapport aux médias, sur
notre rapport à la société aussi.
Notre rapport à la société.
Je pense quand on recrute un commissaire de police, on veut des personnes qui ont bien les pieds sur terre, qui comprennent la société dans laquelle ils évoluent et qui savent se positionner par rapport à tout ça.
Et toi, Camille, t'es BMP?
Alors, non, moi j'ai eu... C'est assez rigolo, j'ai eu un sujet sur la communication politique, donc un peu en plein dans mon métier actuel. Mais je me souviens surtout d'une question qu'on m'avait posée. On m'avait demandé, est-ce que vous pouvez nous parler de Mayotte ? Et il se trouve que dans mes fonctions précédentes, j'avais travaillé sur le chikungunya à Mayotte. Donc j'étais allée passer plus de 2 mois à Mayotte, donc je m'en souviens.
Ah oui, d'accord.
Très bien. Ouais. Et donc j'avais parlé de Mamoudzou, de Dzaoudzi, de l'immigration clandestine. Je connaissais, je pense, aussi bien que mon interlocuteur ce territoire d'outre-mer, mais c'était par pure chance parce que je n'en connaissais aucun autre. Donc voilà, il faut aussi savoir jouer de sa chance.
Oui. Okay. Et puis je pense que ce qui est important pour eux de voir, effectivement, et pour nous, c'est bien sûr de faire passer notre amour du métier, notre envie, notre vocation, nos valeurs, et pour eux c'est de voir aussi la manière dont on réagit, parce que ce jeu de questions-réponses, elles ont pas uniquement pour but de nous piéger, c'est pas aussi simple, c'est de voir aussi comment on va gérer encore une fois ce stress, le fait de ne pas toujours savoir répondre, comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce qu'on arrive à emmener peut-être le jury avec nous sur un sujet qu'on maîtrise un peu plus, et finalement c'est plus ce type de réaction et finalement plus notre personnalité qui est analysée que la culture en tant que telle. Je pense qu'ils ont besoin de voir si demain on sera effectivement un bon collègue avec du discernement, avec du sang-froid,
et un bon patron,
et
un meneur d'hommes, d'hommes.
Souvent, les jurys, justement, reprochent un peu aux candidats d'être un peu tous identiques, tous lisses, et donc il faut arriver à dévoiler sa responsabilité.
Il y avait eu
sa personnalité.
Notamment pour Léna, il y avait eu un grand, en parlant de grand concours, pour Léna, il y avait eu un immense article, je ne sais plus dans quel quotidien français, où le jury de Léna disait, mais ils ont tous écrit la même chose, il n'y en a aucun qui a
se dévoiler, en fait.
Du sujet, et donc c'était un grand reproche dans ce type de concours, que tout le monde était identique, et personne n'avait essayé de sortir et d'être un peu plus original.
Il faut être
original.
Soi, mais pour être soi, il faut aussi être sûr de soi. Enfin voilà, il faut avoir réfléchir à qui on est, pourquoi on veut faire ce métier, est-ce que c'est vraiment fait pour soi, avoir franchi déjà les portes d'un commissariat. Toutes ces questions, il faut se les être posées avant d'arriver au concours et notamment l'oral.
Je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'attente vraiment incroyable sur le niveau de connaissance et de culture policière, parce qu'après tout, en tant que jeune externe, on n'a pas forcément ce niveau de connaissance et c'est quelque chose qui s'apprend en formation. Par contre, là où on est attendu, et puis c'est même important pour nous, et je te rejoins tout à fait, Camille, c'est voilà, de savoir, d'être sûr de soi, sûr de sa vocation, sûr que c'est fait pour nous, parce qu'on a aussi... voilà, c'est important de s'épanouir dans son métier, sinon on sera soit malheureux et puis on rendra aussi les collègues du service malheureux, a priori. Donc je pense que c'est ça qui est important, il faut venir en étant sûr de sa volonté et de qui on est, bien se connaître aussi, ça c'est important.
Est-ce qu'il y a des tests, hormis gestion du test psychologique, parce que vous allez quand même être des policiers armés, armés, a priori, à mener des gens dans des situations difficiles, est-ce qu'on s'assure que vous êtes câblés comme il faut ?
Pour tous les policiers, il y a ce qu'on appelle des tests psychotechniques. D'accord. Et puis surtout, il y a des psychologues présents à toutes les étapes du jury
qui
peuvent poser des questions. Voilà, quand elles ont un doute sur une personnalité particulière, le psy peut s'exprimer, poser des questions et en faire état aux membres du jury et au président du jury.
Ok. Bon, du coup, on passe ce concours, on le réussit. Donc, bon, toi, Camille, t'avais juste passé commissaire de police, donc c'est bon.
Je me souviens de ce moment. C'est un copain qui m'a appelé parce que j'étais pas à l'heure à regarder. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'en souvient tous.
Oui, clairement. Et toi, Clélia, tu réussis les trois concours. Arrêté.
Moi, j'avais passé trois concours. Le concours d'officier de police, celui de commissaire de police et également celui d'officier de gendarmerie.
Ouais.
Donc, j'avais eu effectivement les écrits d'officier de police. Je suis pas allée au terme puisque, entre-temps, j'ai eu les résultats du concours de commissaire et d'officier de gendarmerie pour lesquels j'étais admise pour les deux concours.
D'accord.
Donc, j'ai eu l'immense honneur et la chance surtout de pouvoir faire un choix, finalement.
Ouais.
Alors après, c'est vrai que moi, mes aspirations et ma volonté depuis toujours se portaient plus sur le concours de commissaire de police, donc le choix a été fait rapidement. Mais effectivement, j'avais aussi passé officier de gendarmerie.
Et pourquoi pas la gendarmerie ?
Alors, je pense simplement que ça aurait été compliqué pour moi dans l'état d'esprit militaire. Je m'explique, il ne faut pas oublier effectivement que la gendarmerie nationale, même si c'est rattaché effectivement au ministère de l'Intérieur, reste un corps militaire avec certaines conditions, comme effectivement le fait de vivre en caserne. La gendarmerie travaille essentiellement en milieu rural. C'était un état d'esprit, une manière de travailler qui peut-être correspondait un petit peu moins
éloignée
à ma personnalité, à ma vocation, tout simplement. Mais après, ça aurait pu être une possibilité, effectivement, à laquelle j'avais réfléchi.
Et toi, Camille, t'as pas envisagé la gendarmerie ?
Ben non, je n'y ai pas pensé. Je ne sais pas pourquoi.
On parlait tout à l'heure du cliché, peut-être, de la guerre entre gendarmerie et police. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que ça existe vraiment ?
Non. Pour moi, ce n'est pas une guerre, clairement. On fait tous le même métier. Alors moi, je représente les policiers et les gendarmes maintenant, et les sapeurs-pompiers.
Voilà.
Donc j'ai beau être commissaire de police, de formation, de cœur. Je représente l'ensemble. Et donc j'ai beaucoup d'échanges avec nos collègues de la gendarmerie. Par contre, il n'y a pas une guerre. Objectivement, on fait le même métier. On le fait différemment selon les zones et avec des ressources différentes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les deux institutions se regardent en permanence. Se jalousent parfois. Alors on peut en faire du bon et du mauvais, en fait, de cette situation. On peut se challenger en disant « T'as vu, ils font ça. Pourquoi on ne fait pas aussi bien ? Pourquoi on ne fait pas mieux ? Pourquoi on ne fait pas pareil ?» Il peut y avoir cette attitude-là, le fait d'avoir deux forces qui ont des pratiques différentes. Ou alors, ça peut se transformer en de la jalousie inutile et à des dysfonctionnements ou à un mauvais passage d'information. Donc, en fait, cette différence, il faut en faire une force, clairement. Et moi, souvent, quand je dis à une des forces qui me fait état du fait que le fonctionnement est différent dans l'autre force, je dis faites mieux ou faites avec vos moyens différemment.
Ouais.
Et donc, je pense que cette différence, il faut en faire un challenge et au contraire une force.
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été entretenu aussi par l'histoire, par les médias ? Parce que je regardais sur Netflix J'ai découvert Netflix 1000 ans après tout le monde. Mais j'ai regardé ce grand documentaire qu'ils ont fait sur l'affaire Grégory. L'affaire Grégory. Où vraiment, dedans, on voit comment la gendarmerie s'évertue à essayer de trouver le coupable. Et puis, ils sont dessaisis. Et puis, au profit de la police qui arrive et qui rudoie les gendarmes en disant « Ils sont nuls !» Enfin, voilà. Et donc, et dans plein d'histoires comme ça, si on aime suivre en podcast des émissions sur des grandes affaires criminelles, c'est souvent ça. Alors, les gendarmes sont dessaisis au profit d'eux parce que
alors il y a la filmographie, il y a les séries, il y a les médias, et puis après il y a plein de petites situations d'achoppement entre les deux forces, comme on dit dans notre jargon, qui peuvent qui peuvent être des sources de tensions qui sont médiatisées ou montées en épingle. C'est des choses qui existent. Après, objectivement, au quotidien, ça se passe très bien, et il y a des bonnes synergies entre les deux forces, et voilà, les différences, parce qu'elles existent, à mon sens, il faut en faire des forces.
Ok, donc vous intégrez le NSP à Saint-Cyr au Mont-d'Or, à quelques encablures de la belle ville de Lyon. Et donc du coup, quand on entre à l'ENSP, donc vous, on le rappelle, vous avez passé un concours externe, donc vous vous retrouvez avec vos collègues qui sont déjà policiers et qui, eux, ont passé un concours interne, c'est-à-dire qu'ils étaient policiers de carrière. Est-ce que le concours interne est différent, plus difficile, moins difficile?
Il est quand même assez difficile, hein, le concours interne.
Oui, c'est à peu près les mêmes...
Voilà, et il y a un autre système qu'on appelle la VAP, la validation des acquis professionnels pour les policiers vraiment les plus anciens, qui récompense à la fois une carrière plus longue, mais qui est aussi très difficile. Donc objectivement, tous les gens présents à l'ENSP méritent d'être là et ont été triés sur le volet.
Ok.
Et c'est une vraie chance d'ailleurs, je trouve, d'avoir cette conjugaison des trois voies d'accès, le concours interne, la VAP et le concours externe, parce que c'est un partage à tout niveau. Quand on se retrouve effectivement dans une promotion avec des collègues qui ont une expérience de plusieurs dizaines d'années de police derrière eux, pour les jeunes externes que nous sommes, c'est un apprentissage, c'est un partage, un échange. Et à l'inverse, peut-être que nous, on arrive avec une fraîcheur et des idées nouvelles. Quoi qu'il en soit, en tout cas de mon expérience, ça a été vraiment un échange très, très bénéfique au sein de la promotion.
On va poser une petite question un peu féministe, mais en tant que femme externe en plus, qui a réussi les concours de police, est-ce que vous êtes traitée normalement? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que, je sais pas, il pourrait y avoir des petites tensions entre les gens qui sont légitimes, entre guillemets, parce qu'ils ont 15 ans de maison derrière eux, et vous êtes les petites jeunes qui arrivent?
Quand vous arrivez dans un service, déjà, alors le fait d'être une femme, je sais pas toi, moi ça n'a jamais été
un sujet,
mais absolument pas. Il y a beaucoup de femmes dans la police, plus de 30%. Et d'ailleurs, plus on monte en grade, plus il y a de femmes.
Absolument.
Parce qu'on est meilleures à l'école. Donc là, c'est clairement pas un sujet. Après, le sujet de la jeunesse, moi j'avais 28 ans et j'ai pris la tête d'un commissariat de 100 personnes. Le sujet de la jeunesse pourrait, parfois, par certains, vous être renvoyé. Mais en fait, ces commissariats ont l'habitude de voir aussi des jeunes commissaires de police. Et donc, c'est pareil. Cette jeunesse ne choque pas. Et j'allais dire, c'est à vous aussi, dans votre attitude au quotidien, de montrer que vous avez encore des choses à apprendre, de faire vos preuves. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un sujet, mais... moi, c'est aussi ce qui m'a attirée dans ce métier. J'avais envie de grandes responsabilités très vite et la police me les a données. C'est une chance inouïe. Il y a peu de jobs où, à 28 ans, on vous donne la gestion
d'une équipe
de 100 personnes.
D'un
budget, mais surtout de la sécurité, qui est quand même un des biens les plus précieux dans la ville que vous administrez, avec lequel vous êtes en lien avec le préfet, le maire de votre ville, le procureur de la République. Ça, c'est des responsabilités immenses pour des très jeunes gens. Et donc, c'est une chance inouïe que nous donne, en fait, cette institution d'avoir rapidement des postes de très haute responsabilité.
De la même manière, je n'ai jamais ressenti aucune différence de par mon statut de jeune femme commissaire de police issue du concours externe. Bien au contraire, j'aurais tendance à dire. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'intégrer un service en sortie d'école de police judiciaire avec des officiers, des gardiens de la paix, avec beaucoup de bienveillance, au contraire, qui avaient le goût et la volonté de transmettre eux-mêmes leur expérience, leurs acquis, leur savoir. Et encore une fois, de la même manière, ça a plutôt été un échange, et j'ai beaucoup plus ressenti de bienveillance qu'autre chose, et j'ai pas été concernée par des problématiques.
Après, c'est vrai que c'est un métier difficile. Enfin, vous avez la chance d'avoir des responsabilités, mais après, il faut les assumer.
Bah, oui, c'est bien ça.
Sûr. Moi, je me souviens, sur des questions de management, d'avoir des fois, voilà, d'avoir à gérer des situations de vie, en fait, parce que c'est sûrement le plus dur dans nos métiers, ça reste le management et les situations de vie, donc une tentative de suicide, une dépression d'un collaborateur, ou ce genre de choses, où c'est vrai qu'il faut avoir un peu de maturité de vie. Et en cela, mon expérience de pompier, moi, m'avait quand même ouvert le champ sur la détresse humaine et les situations humaines personnelles. Et donc voilà, c'est plutôt là-dessus où il faut mûrir assez vite, parce que vous avez la charge de ce collectif de travail, et donc voilà, vous avez beau être très jeune, bah, vous êtes un peu la maman de tous, où vous devez faire attention à chacun de vos collaborateurs dans toutes les détresses de la vie qu'ils peuvent ressentir, les détresses professionnelles, mais aussi les détresses humaines et sociales de la vie qu'on rencontre tous.
C'est vrai que sur le plan purement technique, en fait, la formation à l'UNSP nous apprend, oui, et nous donne tous les outils, même si, bien sûr, tout ça, voilà, au fur et à mesure de nos expériences, s'affine, bien sûr. Mais sur le plan humain, managérial, qui, je te rejoins tout à fait, est finalement un des points les plus importants de notre métier de commissaire de police et donc de chef de service, c'est les expériences de vie, celles qu'on a eues en propre et celles qu'on se fait sur le terrain, en service, qui nous permettent voilà, d'être soi-même bienveillants et voilà, d'avoir la bonne attitude et les bonnes réactions face à des situations de risques psychosociaux parfois importantes.
Ouais. Et justement, alors à l'UNSP, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est très bizarre comme à tirer. Vous avez des sources de tir, je sais, mais qu'est-ce qu'on apprend concrètement ?
Heureusement, pas que ça.
Heureusement. Qu'est-ce qu'on apprend ? Quels sont les cours ? Est-ce que vous continuez le droit, les choses comme ça ? Ou c'est plus justement du management, une approche de la psychologie des personnes, je sais pas, enfin,
alors c'est 2 ans, donc on a le temps pas mal de choses. Il y a tout ce qui est technique, j'allais dire, voilà, le tir, la radio, le logiciel de procédure pénale, etc. Il y a du management, pas mal, beaucoup. Il y a des stages. Moi, ce que je faisais, tout ce que je comprenais pas pendant les cours, je le marquais. Pendant le stage, je déroulais ma liste à mon maître de stage. Ça, j'ai pas compris. En fait, tout ça, ça permet aussi de le confronter sur le terrain.
Puis de le mettre en application.
Et oui, le droit, moi, c'était une de mes carences. J'avais un profil Sciences Po, une fois de plus. J'avais pas fait beaucoup de droit. Donc, le droit, la procédure pénale. La procédure pénale appliquée, moi, c'est ce que j'aimais. C'est que c'était pas comme ce que j'avais appris dans mon livre rouge pour réviser le concours. Ça devenait concret, en fait.
Avec des simulations d'exercices aussi, notamment, je me souviens, en renseignement, en police judiciaire, des simulations d'opérations de perquisition, par exemple. Enfin, voilà, il y a toute une base théorique qu'on apprend, bien sûr, à l'école, mais une théorie appliquée à des exercices. Et puis, les stages, surtout, qui nous permettent vraiment de nous confronter aussi à la réalité du terrain. On a 4 stages en tout dans la formation, sur les 2 ans d'école. Et au fur et à mesure...
Et des stages longs, en plus.
On s'immerge vraiment dans la vie d'un commissariat au tout début.
Ensuite, vous commencez par commissariat ou en fait vous faites tous les mêmes stages? Enfin, je sais pas, t'as un stage obligatoire en commissariat, un stage obligatoire en état-major, un stage obligatoire en... J'ai plus d'exemples, mais voilà, tu vois. Ou non, c'est en fonction de ce qui est disponible et ce qu'on vous propose.
Le tout premier stage, effectivement, et qui intervient assez rapidement finalement dans la formation, au bout de 2 mois, mais évidemment qu'on a eu au préalable toutes les formations en termes de tir, en termes de GTPI pour pouvoir être apte sur le terrain.
Geste technique, professionnel.
Pardon, ça c'est...
Mais j'ai payé, bien évidemment.
Donc, effectivement, on arrive assez vite sur le terrain en commissariat. Et donc, c'est un stage de 2 mois, si je ne m'abuse, qui permet vraiment d'être dans les équipes de police-secours, les équipes de nuit, les équipes de la BAC, les plaintes au niveau du commissariat, le CAR, avec les OPJ. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très
concret.
Officier de
police judiciaire, OPJ. C'est pas j'ai fait que la première année ENSP, moi. Mais je me rappelle de ça.
En tout cas,
choses.
C'est quelque chose de très concret, voilà, qui nous permet vraiment de nous confronter, pour ceux en tout cas qui n'ont pas eu d'expérience de policier avant, à cette réalité-là. Et au fur et à mesure des 2 années de formation, vous allez découvrir d'autres services, que ce soit des services judiciaires comme la sûreté urbaine, la sûreté départementale, et ensuite les SOP, par exemple, les services d'ordre public qui sont spécialisés dans le maintien de l'ordre. Et ensuite, vous allez découvrir au fur et à mesure également les directions spécialisées, comme la police aux frontières, les CRS ou la police judiciaire.
Ok, et ça a confirmé ces stages votre volonté d'être commissaire. Il y a jamais aucun moment où vous avez dit ouh.
Non.
Ah non, pas du tout.
Non.
Okay. Moi, j'en redemandais. Je pense qu'on était tous.
On est marre de l'ENSP.
Non, mais on savait qu'il fallait y retourner parce qu'on apprenait des choses. Mais c'est vrai que le moment des stages, c'est des moments importants.
Ah non, et puis c'est bien le NSP parce qu'il y a aussi tous les policiers étrangers aussi qui viennent et qui participent aussi à vos cours, etc. Ce qui est assez intéressant en termes d'interculturalité avec les polices du monde.
Oui, effectivement, chaque année, le NSP accueille plusieurs auditeurs étrangers un peu partout, qui viennent un peu partout dans le monde, qui ont déjà généralement des postes à responsabilité dans leur pays d'origine. C'est aussi un échange qui est extrêmement intéressant du point de vue de l'organisation, du mode de fonctionnement et puis simplement voilà, de développer effectivement ces échanges entre tous les policiers du monde.
Et puis cette ENSP, c'est aussi la formation continue pour les commissaires de police. Donc on voyait passer des plus anciens. Oui, on continue à y aller, nous. Et quand on était jeunes, on voyait des plus anciens qui avaient quelques années d'expérience, qui racontaient leur quotidien. Et ça aussi, c'était chouette.
Mais c'est pour ça que tu étais à Lyon en formation ?
Non, d'accord. C'est vraiment notre centre de formation tout au long de notre vie professionnelle, en fait.
D'accord. Bon, on a parlé de l'ENSP, des cours, 2 ans avec plein de stages. Puis là, arrive à la fin, vous passez un concours, un examen final.
Oui, voilà, il y a des épreuves diverses et variées.
Il en faut toujours.
Surtout, il y a un rang de classement qui permet de choisir nos
J'allais listes. Parler voilà. du classement. Du coup, le classement, parlons-en. Parce que le classement, en fait, comme à l'ENA, je crois que c'est le même principe à l'ENA.
Je ne sais pas si c'est encore ça. Enfin, c'est plus l'ENA de toute manière.
Oui. Les nappes, ils ont changé de statut, de nom, tout ça. Donc, il y a un classement. Et là, vous avez une liste de postes. Qui sont proposés vacants aux élèves.
Il faut se mettre d'accord entre nous pour choisir.
Et en fonction du classement, on choisit en bas. Le premier choisit en premier ce qu'il a envie, et puis ainsi de suite.
Après, des fois, il y a un peu de négociation. C'est pas.
Ah ouais,
on choisit plutôt dans l'ordre de classement, mais des fois, on a envie de faire plaisir à ceux, par exemple, qui ont une famille, qui veulent se rapprocher de leur famille.
Ah oui, parce que c'est par territoire aussi.
C'est par territoire,
on sait que c'est, par exemple, police judiciaire à Lille, etc.
C'est vraiment le poste.
Il y a des intitulés de postes précis, effectivement.
Donc soit on privilégie le lieu, soit on privilégie ceux qui veulent vraiment faire de l'investigation de la police judiciaire. Donc voilà, après, chacun aussi a un peu ses priorités dans les choix.
Et dans
tout ça, on en parle dans ce qu'on appelle des amphis blancs.
D'accord.
On en fait plein jusqu'à ce qu'on soit à peu près tous d'accord. Alors, il y en a pour qui c'est un petit peu plus... Des fois, il y a un petit peu moins de choix, mais on essaie, dans la mesure du possible, que tout le monde soit satisfait.
D'accord. En fait, vous vous mettez d'accord avant de donner votre choix. C'est pas tout le monde dans la même pièce et le classement. Et en fin de compte, attend juste de voir
un peu ça.
C'est le dernier amphi, effectivement. Voilà. C'est cela. Mais bon, après, on parle entre nous, évidemment, on échange, on tient compte des contraintes aussi de nos collègues, notamment internes, qui ont une famille et qui ont parfois des contraintes un petit peu différentes. Donc tout ça procède d'un échange. Et puis à la fin, effectivement, il y a un amphi où chacun, en fonction de son classement, finit par... donner sa décision.
Et donc toutes les deux, qu'est-ce qu'elles étaient toi tu te voyais où, Camille, avant de voir la liste?
Alors moi j'étais assez citadine et il se trouve que j'avais acheté un tout petit appartement à Paris que j'aimais beaucoup et donc je voulais revenir au plus près
à Paris.
Et voilà, Paris. Alors j'avais pris le poste de Vance Malakoff qui était un poste de chef de circonscription, donc je voulais être chef tout de suite, moi.
Tu voulais être chef de commissariat, ok.
Voilà.
Et toi, Clé, qu'est-ce que tu...
Moi j'avais toujours eu cette envie particulière de faire de l'investigation. Au cours de mes stages, j'avais eu l'occasion effectivement de passer plusieurs semaines à la police judiciaire de Lyon, ce qui m'avait vraiment confirmé ce goût et cette appétence pour la PJ. Je pensais pas que c'était possible en sortie d'école, parce que les postes en direction spécialisée et encore plus en PJ sont très rares en sortie d'école, en tout cas pour ce qui est des commissaires de police. Et j'ai eu la chance cette année-là, de manière assez exceptionnelle, qu'il y ait un poste en PJ. En l'espèce, c'était le poste de chef d'état-major à la police judiciaire de Lille. Et mon classement et les discussions que j'ai eues avec mes camarades m'ont permis et m'ont donné la chance d'avoir ce poste en sortie d'école. Voilà.
Techniquement, on peut rentrer parce que la police est divisée. Donc, il y a la police judiciaire, la PAF, police aux frontières, la direction de la coopération internationale, la police scientifique, etc., l'IGPN, etc. Techniquement, on peut aller dans tous ces services dès le début ou il y a des services... L'IGPN, par exemple, est-ce qu'on
c'est
peut rentrer...
C'est surtout les commissariats. 90% des premiers postes,
c'est les
commissariats. Parce qu'on estime que pour bien faire son métier de commissaire dans des unités spécialisées, il faut déjà connaître ce travail, fondamental de commissariat. Mais de temps en temps, il y a quelques postes, soit en police aux frontières, soit en police judiciaire,
aussi,
en CRS,
CRS.
Les compagnies républicaines de sécurité. Mais souvent, c'est un ou deux par promotion, pas plus. Donc voilà, c'est rare. Des fois en renseignement, parfois, un poste en renseignement.
Mais après, proportionnellement, en fait, la sécurité publique, effectivement, c'est l'essentiel des effectifs de police nationale et c'est le cœur de métier principal. Donc effectivement, les sorties d'école sont plutôt tournées vers les commissariats et vers des services de sécurité publique. avec quelques rares exceptions.
Et après, on se spécialise. C'est plutôt ça, le processus habituel.
Donc toi, Camille, t'es chef directement.
Voilà,
t'arrives
chef
au commissariat. Comment ça se passe?
Bah, ça se passe bien. Plus, j'ai la chance d'avoir un commissariat neuf, enfin qui a 5 ans seulement.
Après,
donc
plus, Vanves,
tout
Malakoff,
est propre,
c'est calme,
tout est
beau.
C'est plutôt... Alors Malakoff un petit peu moins que Vanves, mais c'est plutôt calme. Et donc en plus, on a, t'as tout à fait raison, on a du temps pour faire de la prévention, pour faire du lien avec les partenaires, pour faire du renseignement aussi. Et donc ça, c'est précieux ce temps en fait. Et c'est pas tous les commissariats qui ont le temps de, voilà, de faire ces actions. Et moi, elle me tenait déjà à cœur. Je pense que j'ai toujours aimé la communication. Et voilà, ce côté préventif m'intéressait. Donc je faisais beaucoup de réunions de quartier, beaucoup de réunions avec les seniors, avec les écoles. C'était des choses qui me tenaient à cœur. Et ça, voilà, ça participe aussi du fait que les policiers sont mieux connus, plus appréciés sur leur territoire. Et donc c'est aussi comme ça que les citoyens viennent plus... faire état de ce qui se passe, et donc vous résolvez aussi en amont un certain nombre de difficultés avant vraiment la chaîne de délinquance proprement dite.
Ok. Et toi, l'état-major, donc tu arrives à la
police
un
judiciaire
peu bizarre
de Lille.
Ton poste, parce que t'es à la PJ, à l'état-major à Lille,
ouais.
Mais t'as plein de services.
Déjà, la PJ, c'est une direction spécialisée, donc effectivement, elle n'a pas les mêmes missions qu'un commissariat de sécurité publique dans laquelle a commencé Camille. La police judiciaire, de manière large, c'est la lutte contre toute forme de criminalité organisée et la grande délinquance. Donc en l'espèce, l'état-major, pour moi, ça a été directement effectivement à pied dans cette spécialité-là. Donc ce qui aurait pu être effectivement un petit peu dangereux ou en tout cas challengeant, moi je l'ai vraiment vécu comme un challenge, mais très, très porteur et très bénéfique au final, parce que l'état-major, c'est une structure qui regroupe beaucoup de services transversaux qui viennent faire du soutien finalement aux enquêteurs de police judiciaire. Donc on a à la fois un service de police technique et scientifique, donc qui est en charge des constatations criminelles, on a un laboratoire, enfin voilà, il y a plusieurs services au sein du SR, de ce service de police technique et scientifique. On a d'autres services, par exemple, comme ce qu'on appelle donc le CIRASCO, qui est un service d'analyse du renseignement criminel.
Okay.
On avait également une petite unité cyber qui s'appelait le Lion, qui existe toujours, hein, mais qui n'est plus rattachée à l'état-major, avec des enquêteurs cyber qui viennent également en appui des enquêteurs de police judiciaire, qu'ils soient des enquêteurs en criminels ou en brigade financière. Voilà, c'était finalement des services transversaux, très techniques. Donc c'était tout de suite effectivement un pied dans la technicité, dans une spécialisation immédiate, mais qui m'a donné vraiment un éventail de tout ce que pouvait faire la PJ et de toutes ses capacités, de tous ses moyens, très large immédiatement. Et c'est quelque chose que je mets à profit encore aujourd'hui dans mon nouveau poste, puisqu'aujourd'hui je suis chef de la division financière à la PJ de Lille, toujours, avec aussi un rôle de représentation au niveau de l'état-major, puisque pour le coup on est également très en lien avec la préfecture, avec nos autres services partenaires, d'autant plus que ces services qui sont rattachés à l'état-major travaillent pour la PJ, mais pas uniquement, aussi pour la sécurité publique, pour ce qui est par exemple de la police technique et scientifique, elle assure des missions aussi pour la sécurité publique. Voilà, donc c'est vraiment un service décloisonné qui m'a permis d'avoir une vision très large de ce que pouvait faire la PJ.
Donc en gros, si je comprends bien, tu es à la PJ et tu gérais tout ce qui était technique, scientifique, cyber, tout ce genre
au profit des grandes enquêtes contre la délinquance.
Exactement, au profit des grandes enquêtes contre la criminalité organisée. Et également avec des missions pour les commissariats de sécurité publique, notamment, je prenais l'exemple de la police technique et scientifique, chez nous, qui sur Lille et sur d'autres circonscriptions, assure également des missions au profit des commissariats.
D'accord. Et au jour le jour, le job de commissaire de police, vous êtes sur le terrain, vous courez derrière les... Qu'est-ce que vous faites au jour le jour?
Déjà, je pense qu'on ne le fait pas tous de la même manière, mais c'est une vraie richesse, en fait. C'est un métier qu'on fait aussi en fonction de ses goûts, de ses compétences. Il y a des passages obligés, mais il y a des commissaires qui vont être beaucoup plus sur le terrain, d'autres beaucoup plus dans la conception, et c'est un métier où on peut faire les deux, en fait, à différents moments de sa vie, et c'est un métier où on peut faire plein de choses différentes dans sa vie professionnelle. En commissariat, le début de journée, c'est un moment important. Vous allez lire toutes les plaintes que vous n'avez pas lues la veille. Donc voilà, vous allez prendre connaissance de toute la délinquance enregistrée. Oui, ça peut être beaucoup. C'est plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Donc des fois 20, des fois 50. Ça dépend de la taille de votre circonscription. Mais c'est important parce que c'est comme ça que vous savez la délinquance réelle et qui vous est rapportée. Et donc, vous allez les lire, vous allez vérifier que les investigations sont bien lancées, qu'on n'a pas perdu de temps pour aller réaliser des prélèvements d'identité judiciaire, faire une enquête de voisinage, etc. Et souvent, après, vers 9h, 9h30, ça dépend des horaires des uns et des autres, vous allez faire une réunion avec les différents officiers, les différents gradés de votre commissariat, pour faire un petit point, souvent rapide avec eux, vérifier qu'il n'y a pas de difficultés pour la journée, que voilà, les problèmes qui sont tous résolus, vérifier un petit peu que tout le monde va bien aux réunions, se répartir la charge de travail. Et une grande partie de mon travail, moi, quand j'étais en commissariat, c'était ce lien partenarial avec les maires, avec les commerçants, avec le corps préfectoral, avec le parquet. Mais la base, c'est déjà la connaissance de la délinquance et qui vient principalement par la lecture des plaintes, mais aussi par les diverses rencontres que vous faites des personnes qui vivent sur le territoire.
La gestion de personnes, financière aussi ?
Alors, le financier, pas tant que ça, finalement. C'est une petite partie, mais le management de l'humain. Alors, il y a les officiers de police qui ont vraiment ce management de proximité, qui font une grande part du travail de management. Mais le commissariat ressemble aussi au management que vous impulsez. Donc, c'est important. C'est important de prendre du temps pour vos collaborateurs, pour ceux qui en ont besoin, pour organiser le travail, tout simplement. Des fois, le management, c'est un grand mot et ça veut juste dire se répartir, bien organiser le travail, donner du sens au travail, expliquer pourquoi on fait les choses, finalement.
C'est beaucoup de communication, en fait, le management, tout simplement. C'est expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi est-ce que le commissaire de police, le chef de service, demande aussi
tel type d'action,
des comptes rendus d'activité. Enfin, voilà, c'est pas juste...
Rien n'est pire que faire des choses sans les comprendre, oui, c'est insupportable.
Exactement.
Pour tout le monde.
C'est donner du sens, et puis aussi, et bien sûr, ce management humain au quotidien, dans la gestion du personnel, dans la gestion des équipes, pour répondre à ta question initiale.
Non, l'état-major, ouais. Est-ce que c'est différent ou...
L'état-major, dans tous les cas, c'est du management. C'est de la gestion d'équipe, c'est du suivi d'activité nécessairement. Après, la particularité de mon poste, c'est que j'avais à la fois donc, des personnels actifs, donc des gardiens de la paix, des officiers, mais également des personnels administratifs dans certains services, et également des personnels donc, de police technique et scientifique. Donc voilà, une variété de personnels avec des profils très, très divers, avec des statuts différents aussi, et donc avec des contraintes différentes. Et donc en termes managérial, pour le coup, c'était extrêmement riche, parce qu'il faut aussi savoir, en tant que chef de service, s'adapter et adapter son discours et son positionnement par rapport aux contraintes de tout un chacun, et par rapport à la situation de tout un chacun. Donc à ce niveau-là, c'était très riche.
Et c'est aussi, bien sûr, du terrain. Enfin, quand vous êtes chef de circonscription, dès qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, qui sort de l'ordinaire, vous vous déplacez sur place. Ça peut être un accident de la route important, ça peut être une intervention difficile, ça peut être une découverte de stupéfiants. Tout ça, c'est des actions où vous vous rendez. Des actions de police où vous vous rendez pour soutenir vos collègues, pour leur donner des directives aux besoins, pour faire ce lien que j'évoquais avec nos partenaires, le parquet, le maire, etc. Donc moi, c'est ce que j'aimais, ce côté terrain. Et voilà. Et ça, vous ne savez jamais quand ça se déclenche, le jour, la nuit, le week-end. Et c'est pour ça que c'est quand même un travail intense. Alors, c'est 24 sur 24, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps là, mais oui, joignable.
Mais
moi, je me souviens, quand j'allais à la piscine entre midi et deux, je leur disais, je suis à la piscine, je ne répondrai pas pendant une heure. Et c'est vrai que... voilà, on y pense tout le temps, et c'est aussi ce qui est passionnant dans ce métier.
C'est un métier passion. C'est-à-dire que même si, effectivement, moi, effectivement, j'étais sur ce premier poste joignable, notamment au cours des permanences, parce qu'au-delà de mon poste, il y avait les permanences judiciaires d'une semaine, où effectivement, là, vous pouvez être appelé à tout moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, s'il y avait effectivement un fait infractionnel grave qui relevait de la saisine de la police judiciaire. Et donc, c'est vrai que c'est... on est constamment, en fait, dans son métier, mais parce que c'est un métier passion, en fait. C'est vrai qu'il est difficile, parfois, même... d'en sortir un petit peu.
Mais on peut avoir une vie personnelle à côté.
Oui, il est possible d'avoir une vie personnelle à côté.
Mais il faut s'organiser un peu quand même.
Mais ça demande de l'organisation et parfois un peu de distance, effectivement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on vibre finalement quotidiennement.
Camille, on va parler de tes autres affectations. Donc après ce commissariat de Vanves-Malakoff, on en parlait tout à l'heure hors micro quand je t'ai dit... Je t'ai demandé pourquoi tu étais sortie de l'active d'une certaine façon, parce qu'ensuite, tu as enchaîné, toi, en tant qu'adjointe conseiller social du DGPN.
Alors moi, j'avais envie de travailler pour une de nos hautes autorités, voilà. D'accord. C'était une de mes envies, et à ce moment-là, il y a un poste, je pense, que personne n'avait envie d'exercer. C'était un poste de RH, et moi, j'ai toujours aimé la RH, le social, et je m'occupais notamment de la négociation syndicale. Et donc, j'étais l'adjointe de la conseillère sociale qui pilotait tout cela. Et j'ai notamment travaillé beaucoup sur le sujet de la police scientifique qui m'est très cher. Comment nos collègues scientifiques sur le terrain interviennent, quelle pression ils subissent, quelle charge mentale ils ont, comment ils sont formés et donc comment on reconnaît ces spécificités de leur métier, de leur statut. Donc voilà, plein d'autres négociations en termes de renseignements, le code de déontologie, etc. C'était des années passionnantes et surtout, ça m'a permis de mieux comprendre toute mon institution et de comprendre aussi comment on travaillait avec les syndicats. C'est précieux.
Et puis ensuite, tu es passée à l'information, à la communication de la police nationale.
Tout à fait, pendant 4 ans.
Au CICOP ?
Tout à fait, c'est ça.
Bonjour au CICOP.
Bravo. Non, pendant 4 ans, c'était passionnant, toute la période des attentats notamment, donc beaucoup de gestion de crise, de communication de crise, mais pas que, aussi des belles actions de marketing, de campagne sur le recrutement par exemple. Et des très très bons souvenirs.
Et comment on devient porte-parole du ministère de l'Intérieur ?
Surtout parce qu'on vous le propose.
On vient dans ton bureau un jour, on fait « Au fait, est-ce que ça te dirait pas
Non mais voilà, ça faisait un petit moment que je roulais ma bosse quand même dans le domaine de la communication. Et donc voilà, on m'avait envoyé pas mal dans les médias sur des situations de tension, de crise et je pense que quand vous aimez ça, ça se sent.
Ouais.
Et donc voilà, on me l'a proposé et c'est de bon cœur que j'ai accepté parce que ça fait du bien aussi à des moments de sa vie professionnelle, je pense, de faire un petit pas de côté, de prendre un peu de recul sur sa propre institution, de l'observer en fait. Alors je pense que je ne fais pas que l'observer parce que je pense que je participe aussi à sa communication. Donc par communication, ça fait participer en fait à la transformation de l'institution, à sa modernisation. Donc voilà, je m'estime toujours être active dans le domaine de la police nationale, mais peut-être avec aussi un statut d'observateur, de comparaison aussi, par exemple. Moi, dans la position qui est la mienne aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les préfectures, donc avec les préfets, les sous-préfets. Et des fois, quand on se compare, on voit des choses qui sont finalement très chouettes dans notre institution ou à moderniser par rapport à d'autres. Et donc, je pense que le jour où je reviendrai dans ma maison, qui est la police nationale et qui est chère à mon cœur, je reviendrai aussi avec des idées, une perception peut-être un petit peu différente.
Donc tu le disais tout à l'heure, tu es la voix des policiers, des gendarmes et de la sécurité civile.
Alors c'est un petit peu avec plus compliqué que ça. Voilà. Moi je coordonne, en fait on est 5 porte-parole au ministère de l'Intérieur. Moi j'englobe l'ensemble et quand le ministre ou sur les sujets qui sont transverses au ministère de l'Intérieur, je m'exprime sur ces sujets-là ou quand le ministre me le demande. Les ministres. Et sinon, je coordonne effectivement mes collègues porte-parole de la préfecture de police, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile. Et il y a une sorte un petit peu de droit d'évocation. Quand c'est transverse, englobant à plusieurs directions, c'est plutôt moi qui y vais, ou dans l'urgence, notamment si on parle de communication de crise, en attentat, etc. Et puis après, on se répartit parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de chaînes d'information, il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'opportunités de communication. Et donc, on n'est jamais trop nombreux sur ces missions.
D'accord. Ça te plairait comme métier la communication?
Je pense qu'effectivement, que toute expérience est bonne à prendre. Et cette vision un petit peu en hauteur de l'institution, ce recul quand même que permet ton poste, n'est pas inintéressant.
Je pense que c'est encore 2-3 ans. Je te le laisse après.
C'est pas les infos. Quelle est la suite pour toi? Parce que c'est vrai que quand on est porte-parole, c'est pas que c'est fini. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est un...
Dans le domaine de la communication, c'est vrai que...
Tu peux pas aller normalement plus loin.
Après, il y a plein de choses, en fait. Moi, je suis policier
Tu reviendrais
Je peux revenir, effectivement, dans mon institution. Il y a plein de métiers que j'aimerais faire. Il y a des métiers de renseignement, alors même si c'est à l'opposé.
Ouais.
Des métiers d'état-major me plairaient, des métiers de chef, une fois de plus, parce que quand on a ça dans le sang, on a envie de travailler comme des DSP ou comme responsable de service. Il y a des beaux postes, moi, qui m'intéresseraient beaucoup à l'étranger aussi, comme attaché à la sécurité intérieure dans des pays étrangers, c'est passionnant.
Et puis c'est des gens, moi pour avoir travaillé longtemps dans le milieu de l'industrie de la défense, tous les ans, la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur organise une rencontre entre les attachés de sécurité et les attachés de défense, mais ça c'est le Minarme qui gère, et donc on va rencontrer ces gens qui seront dans nos ambassades de France pour nous aider à faire du business, à créer du lien sur place.
Quand vous êtes comme ça attaché de sécurité intérieure dans un pays, vous représentez les policiers, les gendarmes, les pompiers, et vous avez à gérer par exemple sur une catastrophe naturelle le renfort de sécurité civile. Donc ce côté finalement interforce qui est un peu dans mon ADN actuellement sur ce poste, vous pouvez le retrouver dans plein d'autres métiers, Et en fait, ce métier de commissaire de police ouvre à plein, plein, plein de métiers. Donc voilà, bah, je verrai le moment venu.
6-5 ans, Camille au Pérou.
Pourquoi pas.
Mais c'est vrai que c'est toute la richesse de nos métiers quand même. C'est que ça nous permet de toucher du doigt tout un tas de domaines différents, de missions différentes, que ce soit de la com, que ce soit effectivement du renseignement, du judiciaire. Et tout au long de la carrière, il est possible de passer de l'un à l'autre sans difficulté en fonction de ses aspirations. Et je trouve qu'il y a peu de métiers finalement qui offrent quand même cette variété de missions et de possibilités.
Toi, t'es à la financière maintenant, Cléa ?
Oui, donc moi je suis
t'as changé.
Toujours en police judiciaire. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de pas de côté.
C'est ça. Tu restes dans la police judiciaire.
Exactement.
Tu y es depuis septembre ?
Depuis septembre, oui. Ouais. Je suis restée pour l'instant à mes premiers amours de police judiciaire parce que je trouve que la PJ, c'est une formidable machine. Nous, on parle de rouleau compresseur de la PJ. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un panel de moyens, d'outils techniques voilà, qui est exceptionnel. Moi, j'ai voulu me spécialiser ensuite. Donc, suite à mon passage à l'état-major qui m'avait un petit peu ouvert les chakras sur toutes les possibilités de la PJ, j'ai voulu me spécialiser dans une matière un petit peu particulière, un petit peu technique, qui est la matière économique et financière. Donc, depuis septembre, effectivement, je suis chef de la division de lutte contre la criminalité financière, toujours à la police judiciaire de Lille. Et donc, on traite de toutes sortes d'infractions économiques et financières, que ça soit tout ce qui est lié, par exemple, au droit des sociétés, donc les abus de confiance, les abus de biens sociaux, tous les dossiers également politico-financiers, des prises illégales d'intérêt, des détournements de fonds publics. On a également un groupe spécialisé dans ce qu'on appelle donc la délinquance astucieuse. Et donc, pour le coup, c'est plutôt tout ce qui est criminalité organisée financière, okay. Donc les grandes escroqueries, le blanchiment, qui est un petit peu... de toute façon, nous, on a tendance à dire en PJ que toute criminalité est financière. Quoi qu'il en soit, je pense que le but ultime de nos délinquants, effectivement, c'est de générer du gain et du profit. Donc, toute criminalité finit forcément par être financière. Et donc, nous, on traite également de blanchiment, de travail dissimulé, enfin voilà, toutes
les infractions. Et tu es référente cyber aussi pour le Nord.
Je suis également référente cybermenace, effectivement, pour les Hauts-de-France. C'est un réseau qui a été, qui est piloté par la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité de la DCPJ et qui a vocation donc à avoir tout un maillage territorial pour voilà, aller à la rencontre des entreprises, des collectivités territoriales, des administrations qui nous sollicitent pour sensibiliser et faire des actions de prévention sur les questions de cybersécurité, sur les menaces liées à la cybercriminalité qui sont de plus en plus présente aujourd'hui, oui. D'autant plus avec, ben, avec le Covid, avec l'élargissement du télétravail. Voilà, ouais, la cybercriminalité est vraiment un domaine de plus en plus présent. Mmh. Et nous, notre rôle, et c'est aussi le rôle effectivement de la PJ, c'est d'aller voilà, à la rencontre des différents acteurs du territoire pour les sensibiliser à cette question et leur donner également les gestes réflexes à avoir en cas de cyberattaque.
Ok. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a marqué et dont vous pouvez parler ?
Oui, 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 y en a plein. Je vais pas plomber l'ambiance avec une histoire super triste.
Elle est fan des cold cases, donc quand elle me parle de ses cold cases.
Non, moi, un accident de la route où, voilà, où une personne est. Enfin, la jeune femme est morte alors que les secours s'affairaient, que la police était présente. Et donc, j'ai expliqué un peu plus tard aux parents les derniers instants de cette personne, de leur fille. Donc voilà, mais c'est des moments importants en fait. Et moi, je me suis toujours dit que je choisissais aussi ce métier parce que je sais que j'allais bien le faire. Je pourrais vous citer aussi une expulsion locative qui m'a énormément marquée avec une petite fille, sa maman. La petite fille était très malade, elle avait la varicelle. Et voilà, dans ces moments-là, et ben oui, on l'amène à la mairie, oui, on va chercher une solution de relogement pour cette personne. Et voilà, moi, je me suis dit toujours que je ferais ce métier parce que je sais que je le ferais avec beaucoup de dignité, beaucoup d'humanité. Donc voilà, c'est plutôt des histoires tristes qui m'ont marqué, mais pour lesquelles j'ai essayé de trouver les mots ou la solution la meilleure compte tenu de la situation complexe. Faut pas se leurrer, on gère des situations de violence, de délinquance, de lien avec la mort, et c'est un métier rude. Et c'est d'autant plus important d'être sain d'esprit et d'être très stable dans sa vie personnelle pour pouvoir gérer ces situations.
Ouais, de la même
manière. J'ai plombé l'ambiance.
Non, mais tu parles du lien avec la mort, avec la souffrance humaine, psychique, effectivement. On la rencontre dans le cadre de nos missions à l'extérieur auprès des citoyens, mais aussi parfois en interne, malheureusement, avec des situations de risques psychosociaux importantes parfois. Moi, le souvenir que j'ai le plus marquant, c'est la première semaine de mon arrivée à la police judiciaire à Lille. Ça a commencé
super
fort. Non, mais sans rentrer évidemment dans le détail, mais on avait une affaire domicile. génocide, pour lequel la police technique et scientifique, avec les OPJ, donc, s'était déplacée pour procéder aux constatations criminelles. Moi, j'avais déjà été impressionnée par ce déploiement de moyens, qui était absolument incroyable. Et puis la rigueur, surtout, que ça demandait, finalement, le fait de se distancier d'une situation quand même relativement sordide et d'une scène de crime pour faire son travail avec le plus de professionnalisme possible. Les OPJ et donc les agents de police technique et scientifique qui faisaient partie de mon service se sont déployés, et à l'issue, donc, on a prélevé un objet sur lequel a été relevée une trace papillaire qui a pu être identifiée à l'auteur des faits qui a été interpellé rapidement dans la foulée. Tout ça c'était sur ma première semaine d'arrivée. Alors je vais pas vous dire que ça arrive tous les jours, ça serait mentir,
ça prend un petit peu plus
mais
de temps.
C'était en tout cas impressionnant de voir la machine police judiciaire se mettre en marche, se mettre en route,
efficace,
et voir qu'avec cette rigueur et cette technicité professionnelle, que ça soit encore une fois de la part des OPJ présents ou des policiers techniques et scientifiques, que tout ça mis en route, s'embriquait extrêmement bien avec un résultat final satisfaisant malgré tout, puisque l'auteur a pu être interpellé.
On est là pour apporter des réponses, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient humaines, qu'elles soient sociales. Alors on va pas porter toute la misère du monde sur nos épaules, mais on a des réseaux, on est en lien avec des travailleurs sociaux, etc. Et donc une bonne partie de notre travail, c'est de répondre finalement à ces questions, de quelque nature qu'elles soient.
Moi, j'aimerais parler du lien familial, parce que Cléa, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques jours, on discutait ensemble, on parlait de nos sœurs. Donc Cléa, sa sœur est infirmière, elle a travaillé en hôpital psychiatrique, et moi, ma sœur est en formation pour être éducatrice SPE avec des personnes schizophrènes, enfin vraiment des gens qui... Voilà, quand même, moi, ma sœur me raconte certaines des histoires, et c'est anxiogène, enfin c'est des gens, faut se méfier, enfin voilà, il peut se passer des choses tragiques, et en plus on se disait, oh, on pourrait jamais faire ça comme métier. Et en fait, en repensant à cette conversation, je me suis dit, mais Clé, tu es policière. C'est quand même la première fois que tu es venue dans mon bureau, je me souviens, à Lyon, et t'avais ton pistolet caché, et je me souviens, en tant qu'amie, j'étais anxieuse pour toi, et votre famille là-dedans, comment ils ont réagi, comment ils réagissent au jour le jour de vous savoir, justement dans un contexte où, potentiellement, ça peut dégénérer.
Alors moi, je les avais quand même bien habitués à pas mal de choses, donc c'était que la suite logique de beaucoup de... moi j'étais partie toute seule 6 mois au Mali... j'avais habitué quand même mes parents à un peu d'aventure.
D'accord.
Donc c'était qu'un aboutissement.
Ils n'étaient pas surpris.
Pas plus que ça. Ils s'étaient habitués à la surprise, en fait. Okay. Quand on leur raconte, moi je me souviens sur un 31 décembre, sur les Champs-Élysées, j'avais été très légèrement blessée. Mais c'est des petites choses où après, quand on raconte, ça peut leur faire peur. Mais finalement, moi, j'en parle pas tellement à la maison. Je sais pas toi, mais... Ouais.
C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, c'est quelque chose que je n'évoque pas. Mmh. Et puis, je pense que ma famille ne cherche pas non plus à savoir.
Il n'y a que moi qui sais.
On est donc sur un accord implicite, parfaitement satisfaisant pour toutes les parties. Moi, d'abord, ma famille a réagi, évidemment, avec beaucoup de fierté quand je leur ai dit que je voulais passer ce concours et que je l'avais obtenu. Après, je pense que sur le quotidien, mon quotidien est un petit peu différent aussi. En PJ, c'est pas on est peut-être moins exposé quand même que quand on travaille dans un commissariat de sécurité publique. Malgré tout, dans le service dans lequel je suis, effectivement, je suis amenée à être sur le terrain assez régulièrement. Je l'évoque pas avec ma famille parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de savoir, parce que j'ai pas envie de les rendre anxieux inutilement. Simplement, quand on a besoin de parler d'une affaire ou de quelque chose qu'on a ressenti d'un petit peu difficile, on l'évoque peut-être plus entre collègues ou entre amis, effectivement, mais sans vouloir inquiéter, effectivement, ses proches. Oui.
Je me souviens que quand on a fait les cours à l'ENSP, nos professeurs qui étaient commissaires de police ou officiers nous disaient, de toute façon, la solution, c'est de se marier entre policiers. et d'ailleurs, à cette époque, on avait, je ne sais pas si tu te souviens, qu'il y a le commissaire Ruby, qui était le chef de la PJ de Lyon, qui avait participé à un reportage, si vous pouvez le trouver, je vous mettrai les liens dans l'article qui sera dédié à cet épisode, enceinte de 7 mois en intervention avec un mec qui saisit une arme, avec son mari qui était professeur à l'université et qui expliquait toute son anxiété et comment il supportait pas de voir sa femme. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça avait été conclu sur le fait qu'il vaut mieux être entre policiers et ne pas...
Heureusement, c'est pas la seule solution.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si c'est la solution ultime. Ce qui est certain, c'est que dans les les relations qu'on peut entretenir, il faut effectivement avoir un compagnon ou une compagne qui comprenne nos difficultés et nos contraintes. Parce que j'allais dire, au-delà de la question du danger et du risque qu'on prend, c'est surtout la question du temps qu'on passe au travail et de l'énergie et de l'investissement qu'on y met quotidiennement. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir un relationnel qui soit compréhensif, soit qui vit effectivement les mêmes contraintes parce qu'il a des fonctions similaires, soit en tout cas qui est capable de comprendre et d'intégrer qu'on fait un métier passion et que par conséquent on y passe du temps, beaucoup d'énergie aussi mentale.
C'est parfois un petit peu déstructuré, on le sait que les 31 décembre, les 14 juillet, les fêtes de la musique, il y a des moments clés où on est un peu tous sur le pont et ça on le sait et il faut faire avec. Après, en s'organisant, c'est vraiment, moi, je pense qu'on peut vraiment avoir une vie personnelle, une vie de famille, même avec ce métier passion qui prend du temps. Après, c'est une organisation. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais chapeau à toutes les femmes policiers, les femmes commissaires de police qui mènent les deux de front. Et c'est faisable. Il faut de la volonté, de l'organisation, mais c'est tout à fait faisable.
Alors régulièrement, et ça sera presque la fin, après on passera au petit conseil, mais régulièrement, le métier de policier est dans le top des métiers rêvés d'enfants quand on est tout petit. Alors, est-ce que c'est un métier de rêve ? Je vous lance la question.
Bien sûr, c'est un métier où on peut faire plein de choses différentes à différents moments de sa vie. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est précieux, c'est rare et c'est un métier utile. Moi j'ai chevillé au corps le service public et je pense qu'il faut avoir envie d'aider son prochain pour faire ce métier. Et donc, c'est un métier utile à la société, utile aux autres.
Je pense que n'importe quel métier est un métier de rêve à partir du moment où ça correspond à qui vous êtes, à ce que vous recherchez, et que ça correspond à vos valeurs. Moi, évidemment, le métier de commissaire de police correspond parfaitement aussi aux valeurs que je porte et à mes aspirations. Donc je pense qu'il faut simplement être en parfait accord entre soi, le métier qu'on choisit effectivement de faire. Et en ce sens-là, c'est un métier de rêve. C'est aussi des expériences humaines très fortes, j'y reviens, que ce soit effectivement dans le cadre des missions quotidiennes, ou dans le cadre du relationnel qu'on peut avoir avec nos collègues et nos partenaires. C'est des émotions intenses, fortes, et c'est de l'humain, c'est vivant. C'est un métier qui est vivant en permanence, dont les journées ne se ressemblent jamais. Et je pense que si c'est effectivement ce qu'on recherche, avec l'envie d'être utile aux autres, avec le sens du service public, on ne peut être qu'épanoui dans ce type de métier.
Vous n'avez jamais eu peur que ce soit trop submergent ? Parce que je pense à la gestion de personnel, et c'est vrai qu'on parle beaucoup des risques de suicide dans la police, des choses comme ça. Moi qui ai un LinkedIn avec beaucoup de policiers, beaucoup de militaires, etc., c'est vrai que j'ai beaucoup de publications comme ça qui fait état des problèmes psychologiques, de la difficulté, de la dureté du travail. Pour vous, avec la gestion de vos hommes, est-ce que parfois vous n'êtes pas juste...
Submergée, non. Moi, je me suis jamais sentie submergée. Après,
ou dépassée
Il y a des moments, où physiquement, professionnellement, intense. Et on est fatigué, très fatigué. Après aussi, avec, je pense, un peu de maturité professionnelle, on sait s'organiser des temps de récupération. Parce que 42 ans et demi ou quelque chose comme ça, c'est long quand même. Je pense qu'il y a... Beaucoup de choses, c'est aussi de l'organisation de la fatigue, de l'organisation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Ouais, je pense que on est là pour être des facilitateurs aussi. Effectivement, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages, que ce soit en termes de fonctionnement, d'organisation, mais aussi en termes humains, d'être une écoute bienveillante avant tout. Enfin, c'est aussi le rôle du manager. Maintenant, il faut réussir effectivement à ne pas se laisser envahir par ça, avoir la distance et le recul, mais un recul positif, en prenant effectivement des temps pour soi, en se ménageant des temps effectivement pour se ressourcer. Et pour ça, effectivement, il faut de l'organisation. Il faut de l'organisation et du recul, je pense, du sang-froid surtout.
Pour finir, la question aussi traditionnelle du podcast, il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de devenir commissaire de police. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et leur donner comme conseil pour mener à bien ce projet ou pour pas arriver comme ça, la fleur au fusil, et se dire ça va être merveilleux, on va révolutionner le monde. Est-ce qu'il y a des petits points d'intérêt qu'il faut préciser aux futurs commissaires de police pour pas... pour arriver...
Aller à la rencontre, je dirais. Aller à la rencontre de policiers de tout grade, pas seulement de commissaires de police, d'ailleurs, pour connaître ce métier, Pas arriver juste en ayant potassé. C'est pas la bonne solution. Il faut bosser, mais pousser les portes d'un commissariat et discuter avec des policiers pour vraiment parler métier, quelles sont leurs préoccupations, comment ils travaillent, comment ça se passe au quotidien. Et je pense que voilà, c'est le meilleur conseil à donner.
Tout à fait d'accord avec toi. Ouvrez pareil. Les portes d'un commissariat, et à la rencontre des gens. Je pense que les échanges humains, c'est ce qui forge vraiment ses ambitions. Voilà, simplement, soyez sûr de vous avant d'y aller, et pas simplement sur un aspect théorique, parce qu'il y a la vision qu'on peut avoir du métier de policier, hein, quel que soit le grade, et puis il y a la réalité. Et je pense que pour ça, il faut pouvoir échanger avec tous nos collègues, et ne pas hésiter surtout.
Super. Eh ben, écoutez, Camille, Clélia, merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi.
Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Et puis, je vous dis à très, très bientôt.
À bientôt.
Merci.
Merci encore à Camille de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cet épisode. Et merci à mon amie Clélia d'être venue de Lille pour enregistrer avec nous. Comme d'habitude, un article dédié à l'épisode est disponible sur le site internet du podcast au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve en juin pour tout plein de nouveaux épisodes. Vous allez voir, le mois de juin sera un mois chargé. Et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. Bye bye !